Chapitre 2. Et je vais vous donner des nouvelles de la famille. Vous avez vu Émilie, vous avez vu notre fille. Pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, mon nom est Maxime Boucher, comme il a été dit. Je suis marié avec Émilie Anne Mathieu, qui est la fille de Brian et Lorraine. On a deux beaux enfants, Irène et Henri. Irène, 3 ans, Henri, presque 2 ans. Plein de visages ici qu'on connaît depuis longtemps, puis je suis vraiment content de pouvoir être avec vous. Seigneur, dans sa grâce, permet que j'occupe la fonction d'ancien à l'Église évangélique de Chicoutimi, communément appelée l'Église des frères de Chicoutimi. Donc, avec Marc-André Caron, qui est le mari de Joséanne, la fille à Jean, et Pierre Mongeur, on est les 3 anciens à l'Église là-bas. Puis, dans la grâce du Seigneur, on sert son peuple là-bas. Et ça fait plaisir de pouvoir partager ce message que j'ai livré à Chicoutimi dernièrement dans le livre de Joël, qui s'intitule « Revenez à moi de tout votre cœur ». Dans Joël 2, on va lire les versets 12 à 17 tout à l'heure. Et le sujet de la repentance, c'est un sujet qui nous a touchés premièrement le jour de notre salut, mais c'est un sujet qu'on a besoin de réaborder fréquemment dans nos vies en tant que chrétiens. Quand je me préparais pour ce message-là, le Seigneur m'a parlé beaucoup. A mis beaucoup de choses en lumière dans ma vie, dans mon cœur. Et j'espère qu'il va pouvoir faire la même chose parmi vous. Puis pour se mettre en contexte dans le livre de Joël, chapitre 1, Joël est le prophète qui vient comme déclarer ce que Dieu veut dire à son peuple. Et son peuple, à ce moment-là, vivait une grande détresse parce que dans le pays, il y avait une grande plaie, une plaie de sauterelles. Puis quand on parle de sauterelles, ce n'est pas nos petites sauterelles, c'est des grosses sauterelles. Puis à chaque phase de développement de ces sauterelles-là, ils dévastaient tout le pays. Puis il restait plus rien. Il restait plus une feuille sur les arbres. Il restait plus rien à manger. Le bétail n'avait plus rien à manger. Le texte nous dit même qu'il n'y avait plus rien à ce point, parce que même dans le temple, il n'y avait plus de quoi offrir à l'Éternel au niveau des libations, des liquides, le vin, le pain qu'ils présentaient devant l'Éternel. Il n'y avait plus rien. Le pays était à sec. C'était une grande détresse. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller l'écouter, le premier message du chapitre 1 de mon frère Marc-André là-dessus sur le site de notre église. Mais on arrive dans le chapitre 2 et là, le peuple est devant ça. On n'a rien entre les mains, on est sous le jugement de Dieu. Et c'est le prophète Joël va dire ça, c'est Dieu qui vous juge. Et on réalise que Dieu va utiliser ces sauterelles comme un avertissement, comme un grand panneau de signalisation pour indiquer un danger. En voulant dire au peuple, levez la tête, réveillez-vous, regardez, il y a quelque chose de plus grand encore qui s'en vient. Il y a un plus grand jugement de la part de Dieu qui s'en vient. Et dans le texte du chapitre 1, on voit qu'il y a un peuple, une armée nombreuse qui va venir sur le peuple pour les juger s'ils ne se repentent pas. Et on parle de repentance, mais ici, dans le texte de Joël, on ne voit pas exactement c'est quoi la faute, le péché exact que le peuple avait commis, mais on voit dans les prophètes souvent que le peuple se détournait de Dieu. Le peuple suivait son propre cœur, le peuple suivait sa chair et non la voix de Dieu. Et Dieu les ramenait à l'ordre, les jugeait, les ramenait à l'ordre constamment. Et moi, je travaille sur la construction, en génie civil, et souvent on fait des chantiers routiers. Et sur les chantiers routiers, bien, probablement vous conduisez tous et toutes une voiture. Souvent, on arrive dans des chantiers, puis là, il y a des cônes jaunes partout, il y a des grands panneaux, puis là, ça nous ralentit, puis ça nous fait passer par un chemin qu'on ne voulait pas prendre initialement. Bien, les sauterelles dans le texte ici, c'est un peu comme ça, ce que Dieu met sur le chemin de son peuple. Puis peut-être le Seigneur en place, puis je vous invite à sonder vos cœurs aujourd'hui, de voir c'est quoi peut-être ces détours, ces panneaux d'avertissement que le Seigneur place dans vos vies, ces épreuves, ces jugements. Et ici, entendez-moi bien, des fois on peut vivre des épreuves qui ne sont pas nécessairement liées à notre péché directement. Des fois, c'est juste l'effet général du péché dans l'existence humaine, où est-ce qu'on en subit les conséquences du péché. Des fois comme la maladie, notre corps qui est déchu, la création qui est déchue. Des fois, le Seigneur va nous envoyer des avertissements, ces sauterelles-là dans notre vie, parce que clairement, dans nos cœurs, on se détourne. On veut suivre nos propres voies et non sa voie. Et là, il veut nous avertir, il veut qu'on lève la tête, il veut qu'on se repente. Et d'autres fois, on est victime du péché des autres. Des fois, les autres autour de nous pêchent et on en subit les conséquences. Mais peu importe, on pourrait dire dans quelle catégorie qu'on se trouve face à cet avertissement-là, face aux conséquences, face au jugement de Dieu, face au péché, bien Dieu a tout le temps le même but, c'est qu'on lève la tête, qu'on réalise, waouh, ça c'est la souffrance que cause le péché, mais Dieu veut m'amener à la repentance, veut que je connaisse lui et lui, ce qu'il veut m'offrir, ce n'est pas cette souffrance-là, il veut faire quelque chose de mieux, il veut faire quelque chose de beau et de bon dans ma vie. Et quand on finit la première partie du livre de Joël au chapitre 2, quand on On est au verset 11. Le constat que Joël fait et le peuple fait, c'est « Car le jour de l'Éternel, fin du verset 11, chapitre 2 de Joël, « Car le jour de l'Éternel est grand et terrible, qui pourra le soutenir? » Et on pourrait dire ces moments de désolation-là dans nos vies, où est-ce qu'on est dans l'épreuve, où est-ce qu'on peut-être qu'on subit le jugement de Dieu. Bien, c'est, la parole appelle ça des jours de l'Éternel, des jours où est-ce que Dieu veut parler, des jours où est-ce que Dieu veut parler à nos cœurs, où est-ce que Dieu veut intervenir et veut se révéler. Et le peuple d'Israël vivait un jour de l'Éternel à ce moment-là avec les sauterelles. Puis dans nos vies, on peut en vivre des jours de l'Éternel. Comme je disais tout à l'heure, on peut être devant ces grands panneaux de signalisation dans nos vies qui nous amènent à lever la tête, à réaliser qu'il y a un danger. Et ce matin, je veux qu'on puisse voir ça ensemble, qu'est-ce que c'est ces dangers-là qui nous guettent, mais qu'est-ce que Dieu veut faire en nous appelant à la repentance. Comme j'ai dit le titre du message, « Revenez à moi de tout votre cœur ». On va parler de repentance. Et Dieu, dans sa bienveillance, veut qu'on vienne à la repentance afin qu'on évite, oui, le jugement qu'il a contre le péché et le pécheur, mais premièrement et avant tout, parce qu'il veut qu'on puisse goûter sa bonté et sa grâce. Il veut qu'on soit en relation avec lui. Donc, on va voir ce matin comment la repentance, c'est au cœur de ce que Dieu veut pour nous. C'est le désir du cœur de Dieu pour nous. On va regarder ensemble, bien, c'est quoi la réponse que Dieu s'attend de nous quand il nous appelle à la repentance. C'est un peu implicite dans le il nous appelle à la repentance, on sait qu'il veut qu'on se repente, mais qu'est-ce que ça fait dans nos cœurs, ça? Comment ça prend place? Puis c'est quoi les aides que Dieu nous donne à la repentance? On va lire sans plus tarder le passage, verset 12 du chapitre 2. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Et dans la première partie de ce texte, dans les versets 12 à 14, on voit que la repentance, c'est le cœur de Dieu pour nous. C'est son désir pour nous. Dieu nous appelle et dit, maintenant que j'ai votre attention avec cette grande souffrance que le peuple vivait à cause des sauterelles, maintenant que vous n'êtes plus dans votre confort, maintenant que vous êtes dans la détresse, que ce que vous pensiez posséder, vous ne l'avez plus. Maintenant que vous n'avez plus rien pour vous distraire, maintenant que vous êtes avide, écoutez ma voix. Et sa voix dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à moi, revenez à l'Éternel, votre Dieu. Repentez-vous. Et de revenir à Dieu, bien, c'est assez clair. C'est que ça implique que le peuple s'en allait d'une direction qui était contraire à la personne de Dieu. Il ne s'approchait pas de Dieu, il s'en allait ailleurs. Et dans nos vies, souvent, dans nos décisions, dans notre façon de penser, on peut s'en aller ailleurs que vers Dieu. On peut s'en aller accomplir nos propres projets, nos propres plans, accomplir les désirs de notre chair. Donc, se repentir de quoi, souvent, c'est ce que la Bible appelle le péché. C'est le péché, quand le péché prend le dessus dans nos vies, quand on se laisse dicter nos décisions, notre façon de vivre par notre cœur qui est pécheur, bien, on se dirige une direction qui est totalement opposée à celle de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu, mais au contraire, on s'éloigne de lui. Et pourquoi est-ce que Dieu nous appelle à la repentance? Bien, c'est parce qu'il nous aime. Quand on voit la souffrance, que la dévastation des sauterelles, tout ça, bien, c'est une image aussi de la dévastation du péché. Et plus qu'on s'en va vers le péché, plus qu'on se détruit, plus que toute la création se détruit, plus que dans nos vies, nos relations se détruisent aussi. Puis Dieu, ce n'est pas ça qu'il veut. Dieu veut nous ramener à lui, parce qu'auprès de lui, c'est là qu'on peut goûter toutes les bontés de ce qu'il a créé pour nous. Et la repentance à laquelle Dieu nous appelle se produit dans le cœur. Regardez le verset 13. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » La repentance, face à Dieu, c'est ça, c'est pas de l'extravagance, c'est pas dans les choses nécessairement qui paraissent en premier, mais ça commence dans le cœur. Quand il dit « déchirez vos cœurs et non vos vêtements », ça me rappelle le passage dans Luc 18 où il y a un pharisien qui prie dans le temple et qui dit « regarde Dieu, comment moi je suis pas comme ce pécheur-là en regardant un publicain, un collecteur de taxes, puis le publicain lui est là, puis il prie, puis Seigneur, tu sais, je suis pécheur, j'ai péché contre toi », puis littéralement il déchire son cœur devant Dieu, puis Jésus va dire aux gens qui l'écoutent « qui vous pensez qui est retourné chez lui justifié ce jour-là? » Ben, c'est le publicain, parce qu'il était dans la repentance devant Dieu, et non pas le pharisien. Et c'est cette attitude-là que Dieu veut qu'on ait, parce que Dieu veut nous amener à un endroit dans nos vies, dans la repentance, où est-ce que lui est aussi. Il veut qu'on vienne cœur à cœur avec lui, et lui, Dieu souffre du péché. Dieu est la principale victime du péché, parce que le péché, c'est cette rébellion contre l'autorité suprême de Dieu. D'un Dieu qui est aimant, qui est plein de compassion, qui nous a tout donné pour qu'on puisse en jouir. Et nous, on s'est rebellé en disant, « Non, Dieu, moi, je vais être Dieu à ta place. » Donc, Dieu est offensé par le péché. Et il veut qu'on vienne devant lui, qu'on réalise ça, qu'on réalise à quel point on l'a blessé, qu'on l'a offensé, mais à quel point le péché nous détruit également et qu'on a besoin de s'en détourner. Donc, ça commence sur un plan personnel avec Dieu, cette repentance. Et peut-être ce matin, tu es sur le seuil de la repentance. Peut-être que tu entends parler de Jésus depuis un certain temps ou c'est toutes des choses qui se passent dans ta tête. Ou peut-être que même que tu luttes avec la repentance face à un péché. Mais si tu luttes avec ça, si tu ne veux pas te repentir, bien, la première étape, c'est de t'arrêter puis de réaliser. Dieu met des avertissements peut-être dans ta vie, sur ton chemin. Puis d'entrer en toi-même, d'aller devant Dieu, d'aller le voir, puis de réaliser « j'ai péché ». Dieu veut que tu sentes cette tristesse-là. Donc, ici dans le texte, quand ça dit « déchirez vos cœurs et non vos vêtements », puis dans le verset 12, qu'avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations, souvent on a l'idée que le chrétien est toujours dans la joie, il y a toujours une joie attachée à notre espérance, mais des fois, quand on est face au péché, au constat « j'ai péché », Dieu veut nous amener sur un point où ce qu'on... On pleure sur notre situation, on pleure sur notre péché, pas dans le but de rester dans ce marasme-là, mais de vivre cette douleur-là avec lui, puis d'être capable de lui apporter. Parce que souvent, quand ça va trop bien, quand la vie va bien, souvent, on finit qu'on oublie Dieu. Mais quand on est dans l'épreuve, quand ça va mal, quand on est dans le manque, souvent, c'est là que Dieu nous parle le plus, là où est-ce qu'on ressent l'effet du péché. Et la repentance n'est pas de compenser, d'essayer de faire assez de bien pour dire, ben, Seigneur, je vais faire plein de bonnes choses pour me racheter. Ce n'est pas non plus en se punissant soi-même, en se disant, je vais porter le fardeau de mon péché, puis Seigneur, regarde comment je souffre, puis regarde comment je fais pitié ou que je pâtis, puis je vais l'apporter la conséquence de ma faute. Ce n'est pas en gardant le poids sur nous. La repentance se vit dans le cœur face à Dieu. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand on revient à l'Éternel, il dit « revenez à l'Éternel ». Quand on va vers lui, qu'est-ce que Dieu fait? Puis si vous êtes venu à la repentance, si vous avez connu Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait avec vous le jour où vous avez compris ce qu'il a fait à la croix? Est-ce qu'il a fait « qu'est-ce que tu fais là? Je te l'avais dit, voyons, non, c'est... » Dieu, c'est pas le juge méchant et sévère qui ne nous accueille pas, non. Qu'est-ce qu'il fait quand on va vers Dieu dans la repentance? On dit, Seigneur, j'ai péché. Regarde, je souffre du péché. J'ai péché contre toi. Je t'ai fait mal. Je t'ai déshonoré. Là, il fait, ben oui, tu as compris ce que je voulais te dire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je t'accueille. Pourquoi est-ce que je peux t'accueillir? Puis il dit, regarde à mon fils. Puis quand on vient au même constat que Joël, en disant « le jour de l'Éternel est terrible, qui peut le soutenir? » Personne ne peut soutenir le jugement de Dieu. La seule personne qui a subi le jugement de Dieu, c'est Christ, qui l'a subi, qui est ressuscité, qui l'a subi parfaitement, qui l'a supporté, qui a réussi à supporter le poids de ce jugement-là, c'est Jésus-Christ. Donc, quand on vient à Dieu, Dieu nous dit « non, tu n'es pas capable de supporter mon jugement, le jour de l'Éternel que tu vis, mais regarde à mon Fils. » Mon Fils, lui, l'a supporté parfaitement. Mon Fils, lui, s'est sacrifié. Lui a payé le prix. Lui a porté le poids de tes fautes. Lui a été humilié pour que toi, tu ne le sois pas. Donc, quand on s'approche de Dieu dans la repentance, c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il nous révèle, c'est ce qu'il nous montre, c'est ce que la Bible, c'est le sens de la Bible, c'est ce que Dieu veut nous communiquer. Que oui, il y a un jugement contre notre péché, mais il y a une solution. Quand on s'approche de Dieu, oui, c'est notre juge, oui, c'est la victime principale du péché, mais c'est notre libérateur également. C'est lui qui peut nous libérer de tout ce poids-là. Donc, quand on est dans la repentance devant lui, il y a une libération qui est réelle. Il nous décharge de ce fardeau-là, de ce péché-là. Et on échappe à son jugement. Et regardez, on continue là, au verset 13, voir le cœur de Dieu. Tu sais, qu'est-ce qui caractérise Dieu? C'est une bienveillance, c'est un amour profond pour nous. Quand il dit « Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. » Et c'est intéressant ici, ça fait écho à Exode 34, où est-ce que quand Dieu se révèle à Moïse, c'est comme ça qu'il se révèle. « Je suis miséricordieux, compatissant, lent à la colère. » Pourtant, ce que les gens voyaient au pied de la montagne, c'était du feu, c'était un jugement terrible, c'était quelque chose d'épeurant. Mais quand on s'approche vraiment avec un cœur qui reconnaît que non, je ne peux pas supporter la sainteté et le jugement de Dieu, Dieu révèle quelque chose de magnifique. Et ici, le mot miséricordieux est intéressant parce que dans l'hébreu, c'est la même racine que le mot utérus. Où est-ce que Dieu se révèle avec un amour maternel, un amour profond, viscéral, où est-ce qu'il dit « je suis miséricordieux », comme une mère qui aime son enfant, qui est prête à tout, qui veut lui donner tout ce dont il a besoin. Dieu est comme ça envers nous. Dieu est un papa, on pourrait dire, peut-être ça va vous choquer une maman, mais Dieu n'a pas de sexe, il se présente comme Dieu le Père, mais plusieurs images dans la Bible montrent l'amour, on pourrait dire, maternel de Dieu envers nous. Puis là, je ne dis pas que Dieu c'est une femme, mais c'est que Dieu va se révéler dans un amour qu'on connaît de nos mères, un amour tendre et chaleureux. Puis il se révèle comme ça. Je vous chéris comme si on était sortis de ses entrailles. C'est un grand amour, c'est une belle image de voir que notre Dieu, c'est comme ça qu'il se révèle quand on va vers lui dans la repentance. C'est encourageant parce qu'on sait que si on a péché, on peut aller vers quelqu'un qui, oui, est juste et saint, mais il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Il veut nous pardonner. Il ne veut pas à tout prix nous donner le jugement. Au contraire, il veut nous pardonner, il veut nous donner sa grâce, ce qu'on ne mérite pas, puis ça, c'est grâce à son Fils. Et il est lent à la colère. Regardez le verset 1, le verset 12. « Maintenant encore. » Et le mot « encore » nous rappelle que Dieu, là, il se plaît à être patient, patient. Quand on pense au peuple d'Israël, combien de fois, quand on lit le livre des juges, même ça ne faisait même pas un mois que le peuple était sorti du pays d'Égypte, puis déjà, leur cœur se détournait de Dieu, puis ils avaient vu des grands miracles. Puis encore et encore, Dieu envoie des juges en Israël, Dieu envoie encore des rois pour ramener, Dieu envoie des prophètes, Dieu parle, Dieu envoie son Fils, Dieu est patient. Justement, dans Matthieu 23, quand Jésus parle au peuple, il dit « Combien de fois, comme une poule qui veut rassembler ses poussins sous ses ailes, j'ai essayé de vous faire comprendre que je veux vous amener près de moi, que je veux que vous soyez dans la chaleur sous mes ailes, en relation avec moi, blottis l'un contre l'autre, mais vous ne voulez pas. » Et Dieu est patient. Et les versets continuent, « Il est lent à la colère, riche en bonté, il se repent des maux qu'il envoie. » Et ça nous parle vraiment du caractère de Dieu. Parce que des fois, on peut dire, oui, on voit le jugement, on pourrait voir peut-être le jugement contre notre péché dans notre vie, où on pense au jugement de Dieu contre le péché, la mort éternelle, c'est grave, c'est sévère. On pourrait dire, bien, Dieu, t'es injuste, Dieu, t'es trop sévère. Mais en même temps, ce que Dieu nous révèle ici, c'est, oui, je suis sévère contre le péché, parce que c'est sérieux, mais je t'aime plus que tout, et je suis compatissant, patient. Et il se repent lorsqu'on se repent, nous, puis qu'on demande pardon. Dieu se repent aussi du jugement qui faisait peser sur nous. C'est ce qu'on vit quand on vient à connaître le Seigneur Jésus. C'est ce qu'on peut vivre au quotidien également quand on demande pardon pour nos péchés. Et il ramène la bénédiction en abondance, verset 14. « Qui sait s'il ne reviendra pas, il ne se repentira pas, s'il ne laisserait pas après lui la bénédiction ?» Et Dieu est riche en bonté. Il veut ramener la bénédiction. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut bénir ses enfants. Et ça, des fois, on le perd de vue que notre Dieu est un Dieu riche en bonté. Ce n'est pas un Dieu cheap, dans le sens que c'est beau, t'as péché, tu m'as demandé pardon, va faire la vaisselle, va faire le ménage dans le coin, tu sais. Tu es à mon service, mais des fois, en tant que chrétien, on peut venir à vivre ça, puis comme dire, ben, tu sais, merci Seigneur, mais tu sais, je suis vraiment pas digne. Puis tu sais, de vivre comme si on était comme, ben, on n'a pas de valeur, puis Dieu, ben, il a fait ça parce qu'il avait pitié, mais Dieu, c'est pas juste de la pitié, c'est de l'amour qu'il a. Il te veut, il t'aime. Si tu es à son service, c'est parce qu'il. Non, il n'a pas nécessairement besoin de toi, mais il veut que tu serves avec lui. Il veut que tu sois participant de sa cause pour partager l'Évangile. Il veut que tu sois participant de sa gloire. C'est incroyable. Fait que quand on a péché, quand on est face peut-être au jugement de Dieu face à notre péché, ou qu'on vit des choses négatives, c'est toujours un rappel de dire, Seigneur, peut-être que ça, ce jugement-là, ben oui, je le mérite. Puis le jugement éternel, je le mérite aussi. Puis ce que je ne méritais pas, c'est que tu me donnes ton fils. Mais gloire à ton nom, merci, parce que tu es grand en bonté. Tu es riche en bonté, tu es compatissant, miséricordieux, lent à la colère. Jonathan Edwards, un prédicateur puritain du 17e siècle, dans le nord-est des États-Unis, avait prêché un sermon à son église, un peu comme ici le dimanche matin. Ça s'appelait « Les pécheurs entre les sinners in the hand of an angry God », tu sais, des pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère contre le péché. Puis l'histoire raconte que quand il a prêché ce sermon-là, les gens avaient tellement peur, tu sais, du jugement de Dieu. Ils avaient tellement été saisis par le fait que Dieu est en colère contre le péché. Les gens s'accrochaient après les colonnes de l'église, on pourrait dire, parce qu'ils avaient peur que le sol s'ouvre en dessous d'eux et qu'ils soient comme jetés en enfer. C'est un peu dramatique, peut-être intense. Comme scénario, j'espère que ce ne sera pas le cas ce matin, mais il y a la contrepartie que oui, il y a ce jugement-là terrible qui pèse, mais il y a une grâce qui est encore plus abondante, qui est déversée. Et je vous raconte cette anecdote-là parce que je l'ai toujours en tête, mais quand on est réellement saisi de la gravité puis de la conséquence du péché, bien, ça nous amène aussi à apprécier encore plus toute la bonté et la grâce de Dieu. Donc, le jugement a toujours pour but de la part de Dieu d'amener à une repentance, d'amener à un changement de cœur. Ce qui nous amène à notre deuxième point dans les versets 15 à 17, c'est quoi notre réponse face à l'appel de Dieu? Dieu veut qu'on se repente, c'est clair. Mais quand est-ce qu'il attend cette réponse-là? C'est comme si Dieu nous envoie un message. Mais quand est-ce qu'il veut qu'on se tourne vers lui? Regardez le verset 12. Qu'est-ce que ça dit, le premier mot? « Maintenant ». Dieu parle maintenant et Dieu veut une réponse maintenant aussi. Dieu veut une réponse aujourd'hui. Regardez le verset 15. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Et ici, au verset 15, sonnez de la trompette, c'est une trompette qui était utilisée comme quand l'ennemi arrivait, là, les gens sur les murailles sonnaient de cette trompette-là pour avertir les gens du danger imminent. Allez, il faut qu'on se prépare, la guerre est à nos portes, mettez-vous au poste de combat. Le danger est là. Et c'est ce que Joël dit au peuple. Sonnez de la trompette, mais là, c'est pas monter sur les murailles, préparez-vous pas, barricadez-vous pas, mais c'est sortez. Venez à cette convocation sainte. Et ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une urgence. Il y a une urgence de se repentir. Il y a une urgence à aller devant Dieu, d'aller dans cet état-là, comme je viens de discuter, de vulnérabilité devant Dieu, puis d'ouvrir notre cœur, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre cœur de se repentir. Dieu nous parle dans sa parole du passé, il nous parle du futur, mais il a toujours la même intention, c'est que ça influence notre présent, le moment présent avec lui, notre vécu avec lui. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans notre cœur, dans notre marche, dans notre sanctification? C'est facile de lire des livres comme Joël, puis de se perdre dans beaucoup de détails historiques, puis de se projeter dans beaucoup de détails, là j'utilise un gros mot eschatologique, mais les choses qui concernent la fin des temps. Parce que oui, Joël n'en parle, puis ça nous concerne. Puis dans la Bible, on voit tout le passé, on voit l'avenir, Dieu nous le révèle. Pourquoi? Parce qu'il veut que ça change notre maintenant, ici-bas, présentement. Qu'est-ce que ça change dans notre vie, dans nos cœurs? Pour Israël, les sauterelles et l'envahisseur qui allait venir, bien, visait un objectif de repentance au moment présent. Et dans notre vie aussi, Dieu, dans sa parole, vise toujours cet objectif-là de repentance, de venir à lui, d'apprendre à le connaître. Peut-être que dans vos vies, votre passé, votre futur sont toujours en train de vous arracher à votre présent. Peut-être que vous avez honte de votre passé. Peut-être que le poids du péché passé dans votre vie semble insupportable. Peut-être que l'avenir vous fait peur avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Peut-être que votre avenir par rapport peut-être à votre condition de santé, peut-être par rapport à votre état financier, peut-être par rapport à toutes sortes de choses. Le futur peut nous paralyser des fois. On peut avoir peur. Mais Dieu nous révèle toujours qu'il est au contrôle. Il était au contrôle du passé, il l'a pourvu. Il est au contrôle de l'avenir, il va pourvoir. Puis Dieu nous révèle toutes ces choses-là parce qu'il veut que dans le moment présent, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Premièrement, la repentance, puis après ça, une marche, un amour, une relation avec lui au quotidien. Donc, c'est un peu une application aussi qu'on peut en faire quand on lit la parole, de se dire, ben, c'est bien beau tout ces histoires-là du passé, mais comment ça change mon présent? Puis c'est bien beau savoir toutes les choses de l'avenir, mais comment est-ce que ça nourrit mon espérance dans le moment présent, puis que ça transforme ma manière de vivre à l'image de Christ, puis comment ça m'approche de mon Dieu qui est riche en bonté. Puis par rapport à la repentance et au salut en Jésus-Christ, peut-être, comme je vous disais, que votre passé, vous semblez être captif de votre passé, l'avenir est incertain, mais ce que Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 6, c'est « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Face à la repentance, face à cette trompette qui sonne, qu'on entend, face à ce panneau de signalisation grand peut-être dans votre vie qui vous met en garde d'un danger imminent, Dieu veut vous parler et c'est aujourd'hui qu'il s'attend à une réponse de vous, de nous. Puis en tant que chrétien, on en a besoin tous les jours aussi. Et de qui Dieu s'attend à une réponse? Bien, dans les versets 16 à 17, c'est assez clair. On voit, il parle du peuple, des vieillards, des enfants, des nourrissons, de l'époux, de l'épouse, des sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel. Son appel s'étend à tout le monde, son appel s'étend à peu importe qui vous êtes, on pourrait dire, sur l'échelle de spiritualité, parce que je veux pas en tant qu'homme, souvent on se compare, puis on se dit, ah, lui, il a l'air plus spirituel, lui, il a l'air moins spirituel. Puis même dans le chapitre 1 de Joël, Joël appelle les ivrognes à dégriser puis à entendre les avertissements de Dieu. Mais ces avertissements-là de Dieu sont aussi bons pour les sacrificateurs, les leaders religieux du peuple. Ça s'étend à tout le monde. Et des fois, quand on parle de repentance, on peut penser aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais premièrement, Dieu parle à son peuple et Dieu nous parle à nous aussi. Notre relation avec lui a commencé par la repentance et la foi en Jésus. C'est ce qui, ça doit caractériser toute notre marche aussi. Si on en vient qu'à penser qu'on n'a plus besoin de repentance, mais on est en train d'errer loin de la croix. On est en train d'errer loin de la place que Dieu veut pour nous dans un état d'humilité, de dépendance envers lui, dans une relation d'amour avec lui, où est-ce qu'on dépend de lui à chaque jour, qu'on a besoin de son esprit. Et ça, le Seigneur, dans les dernières années, il m'a humilié beaucoup par rapport à ça. Puis le Seigneur m'a amené à certaines occasions là, à faire, ouais, je suis très orgueilleux. Puis sans m'en rendre compte, j'étais allé loin de la croix. Puis je pensais que j'étais mieux, je pensais que j'étais mieux que d'autres. Mais non, ce n'est pas le cas, Seigneur. Je suis pardonné par grâce comme tout le monde. Puis je suis vraiment pas mieux qu'un autre. Donc, ça s'étend à tout le monde. Et ce qui est intéressant aussi ici, il n'y a pas d'âgisme non plus. Que ça fasse 30 ans que tu es dans le Seigneur, que ça fasse un an. Ici, on parle des nourrissons qui ont besoin de venir répondre à cet appel. On parle des vieillards. Puis ici, je pointe personne du doigt. Mais ça touche tout le monde. On a tous besoin de répondre à l'appel de Dieu à chaque jour de nos vies face à la repentance. Puis un autre détail intéressant, il parle de l'époux, de l'épouse. Souvent, l'homme dans la famille est montré comme le chef spirituel de la famille. Mais ici, les deux sont appelés à sortir et à venir devant l'Éternel. On ne peut pas se substituer, on ne peut pas déléguer personne à notre place pour répondre pour nous. On ne peut pas se cacher derrière personne. Peu importe t'es qui, peu importe ton statut, peu importe ton rang familial, peu importe ton autorité, tout le monde a à répondre devant Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que non, tu ne peux pas déléguer personne pour répondre à ta place, mais quand tu réponds, par la repentance à Dieu, à son appel à la repentance. Quand tu vas vers lui, tu reconnais ton péché. Le vrai substitut, c'est Jésus. C'est lui qui prend ta place à la croix. C'est lui qui reçoit le jugement. C'est lui qui l'a reçu. Puis ça, c'est gloire à Dieu. Puis ce matin, Dieu attend ta réponse. Tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas te substituer, tu ne peux pas être exempté, tu dois répondre. Et peu importe dans nos vies, puis ici, je vous laisse sonder vos cœurs, que l'Esprit vous le montre, peut-être que le Seigneur veut vous amener à la repentance. Puis quelle réponse espère-t-il de nous, le Seigneur? Bien, on l'a dit, c'est la repentance, mais c'est quand même possible de répondre de deux manières. Parce que oui, on peut se repentir, mais de l'autre côté, on peut s'endurcir. Et ici, je vais aller vite sur ce point-là, mais un bon exemple, c'est dans Exode avec le Pharaon, quand Moïse va devant lui, Dieu va lui envoyer des signes, des avertissements, des gros panneaux d'avertissement. Il va envoyer 10 plaies, 10 miracles qui vont affecter le peuple. Puis la 9e, la 10e, ça a été la mort des premiers-nés. Mais pendant 9 plaies, Dieu avertissait. Et son jugement est tombé final à la 10e. Mais le Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est endurci. Il a refusé. Il a fermé son cœur à l'Éternel. Et Dieu, on peut dire, Dieu a été sévère envers les Égyptiens. Mais d'un autre côté, Dieu épargnait son peuple. Et les Égyptiens pouvaient voir toute la grâce de Dieu envers son peuple. Puis ils pouvaient voir que par une repentance, par une obéissance à l'Éternel, ils pouvaient être bénis comme le peuple d'Israël s'ils se tournaient vers l'Éternel, si Pharaon obéissait. Mais ils se sont endurcis. Et Dieu va toujours montrer, oui, son jugement, mais il démontre toujours sa grâce également. Parce que Dieu est juste. Et dans nos vies, c'est possible de s'endurcir aussi. Comme je vous ai dit, mon cœur était endurci dans les dernières années. Comment je me voyais par rapport aux autres, un sentiment de supériorité par rapport à certaines personnes, par rapport à d'autres églises, par rapport à comment je voyais notre église à Chicoutimi versus d'autres églises au Saguenay. Puis le Seigneur m'a comme... Tu sais, les sauterelles sont passées, puis le Seigneur m'a donné une bonne claque. Puis le Seigneur me fait réaliser que non. Tu n'as pas à t'enorgueillir de rien, puis m'amener dans la repentance. Puis la question qui se pose, puis qui est légitime, c'est bien, pourquoi est-ce que je reviendrais à Dieu? Pourquoi est-ce que j'irais à Dieu? Pourquoi est-ce que je me repentirais de mon péché? Bien, premièrement, pour éviter le jugement. On en a parlé, il y a un jugement qui pèse contre le pécheur, il y a un jugement qui pèse contre le péché. Mais non seulement d'éviter la conséquence, mais parce que Dieu veut bénir, Dieu est riche en bonté, on en a parlé tout à l'heure. Donc, de choisir la repentance, c'est oui pour éviter le pire, mais c'est pour embrasser ce qu'il y a de meilleur aussi. Tout ce que Dieu, comment Dieu veut te bénir à travers lui dans nos relations, où est-ce que, tu sais, on dit on va marcher avec Dieu, on va être proche de Dieu, Dieu va nous sanctifier, va nous transformer à son image. Mais ce n'est pas juste pour faire de nous un beau petit bibelot qu'il va mettre sur une tablette et qui est tout beau, tout propre, tout shiny. Non, c'est parce que ça va changer notre vie. On va avoir de l'amour les uns pour les autres, on va pouvoir se pardonner les uns les autres, on va pouvoir vivre l'épreuve d'une manière différente, on va pouvoir vivre des relations vraies. Parce qu'on va avoir l'Esprit en nous, on va être transformé. Donc, c'est pas seulement que d'échapper à la condamnation, mais c'est de vivre la vie, la vraie vie, dans son plein potentiel, comme Dieu l'avait créé en relation avec lui. Puis il y a une espérance qui est attachée à ça, qu'un jour, toutes choses vont être nouvelles. Nos corps vont être glorifiés, on va être dans sa présence pour l'éternité. C'est comme, même quand on prend tout ce que Dieu nous donne versus son jugement, ce qu'il nous donne, c'est comme... C'est infini, c'est incroyable, l'abondance de bénédictions qu'il veut nous donner. Et si on finit la lecture du passage à partir du verset 17, verset 15, « Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Et on voit comment, qu'est-ce que Dieu appelle le peuple à faire, et ici j'ai appelé ça des aides à la repentance. Et on voit le jeûne revient, publier un jeûne. Et jeûner avec la repentance, mais ça nous amène dans un état de faiblesse. Ça amène notre corps à être dans un état de faiblesse comme notre esprit devrait être dans un état de faiblesse face à notre péché. Puis d'être faible devant Dieu, de C'est comme de matérialiser un peu l'état du cœur que le jeûne. Donc, Dieu ici, il commande, mais dans notre vie, il nous le propose également. Peut-être que le jeûne pour vous, physique, de vous abstenir de nourriture pour des conditions de santé, ce n'est pas possible. Mais des fois, on peut jeûner de toutes sortes de choses. Ça peut être de jeûner de notre émission de télévision préférée, ça peut être de jeûner de certains divertissements, de certaines activités pour consacrer du temps. Puis de que ce soit un rappel dans la tête que ben là, j'étais supposé d'écouter mon émission sur Netflix, mais non, là, je prends ce temps-là à part pour venir devant l'Éternel, venir devant le Seigneur dans un état de faiblesse. Donc, c'est sûr que le jeûne vraiment de nourriture nous amène vraiment dans un état désiré où est-ce que ça matérialise dans notre corps l'état du cœur, où est-ce qu'on vient devant Dieu comme faible dans la repentance. Mais ici, c'est un aide à la repentance, c'est un moyen que Dieu donne. Ensuite, il parle d'une convocation solennelle, d'une réunion sainte. Ce matin, le repas du Seigneur, c'en est une convocation solennelle. Où est-ce qu'on vient devant Dieu? Où est-ce qu'on se rappelle ce qu'il a payé pour nous? Puis dans la vie d'Église, des fois, on en a des moments comme ça où est-ce qu'on se rassemble et qu'il faut s'humilier devant l'Éternel? Où est-ce qu'il faut prier? Et ça a deux effets. C'est qu'on est ensemble, mais aussi quand on réalise qu'on vient ensemble et qu'on a besoin de demander pardon à Dieu, on réalise qu'on n'est pas tout seul. Des fois, on a l'impression, ah, voyons, je suis seul qui pêche autant contre Dieu. Mais quand on vient avec les frères et sœurs, quand on prie ensemble, quand on est en communion et on partage, souvent, on réalise qu'on est tous dans le même bateau, qu'on est tous des pêcheurs graciés qui ont besoin de repentance au quotidien. Donc, ces convocations solennelles-là, ces réunions saintes à part-là, on en a tous besoin. Et il termine en parlant des sacrificateurs. Il dit aux sacrificateurs, verset 17, d'implorer l'Éternel, qu'il pleure et qu'il dise « épargne ton peuple ». Et ici, on voit dans la prière des sacrificateurs, des serviteurs de l'Éternel, un cœur qui est repentant, parce qu'est-ce qu'ils disent? Éternel, épargne ton peuple. Épargne-nous pas pas parce qu'on ne veut pas souffrir, puis pas parce qu'on voudrait que tout soit beau, puis qu'on n'ait plus les conséquences de notre péché. Non, c'est ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Et là, leur cœur est repentant, leur cœur n'est plus centré sur eux-mêmes, leur cœur est Seigneur, ta gloire, ton nom. On veut se tourner vers toi. Fais cesser cette calamité-là pour qu'on puisse t'adorer, pour qu'on puisse maintenant marcher à nouveau avec toi, puis que les nations te reconnaissent, les nations voient ta bonté envers ton peuple. Et le Seigneur, dans la repentance, c'est ça qu'il veut nous amener à faire. Il veut qu'on arrête d'être centré sur nous, mais centré sur lui, que ce soit lui qui ait la première place. Et peut-être vous dites, bon, mais les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel, moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas un ancien dans l'Église, ça c'est les anciens vont prier. Ben, je suis désolé de vous l'annoncer, mais dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 2,9, vous êtes tous et toutes des prêtres, des rois, des sacrificateurs de l'Éternel. Votre prière se rend directement au trône de grâce, votre intercession, autant qu'un ancien, autant qu'un pasteur. On a une fonction différente dans l'Église pour servir le peuple de Dieu, mais Dieu veut que tout son peuple aille devant lui dans la prière. Que tout le peuple ait à cœur le nom de l'Éternel. Et je veux terminer là-dessus ce matin, de vous dire que la repentance, ça peut être après coup aussi. On a péché, on se repent. Mais de comme David aussi, d'aller devant l'Éternel, puis de dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Et ça, c'est des paroles du psaume 139. « Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Des fois, on n'a pas l'impression qu'on a demandé pardon pour quoi que ce soit. Des fois, on n'a pas l'impression qu'on a à se repentir. Mais des fois, on est juste aveuglé. Des fois, on est endurci. Et c'est bon d'y aller, on pourrait dire, en prévention devant l'Éternel et de demander « Sonde mon cœur. » Ce matin, j'espère que vous allez chercher à entendre la voix de l'Éternel derrière peut-être les souffrances auxquelles vous êtes exposés. Et que ces moments-là ne soient pas gaspillés, parce que quand on connaît le cœur de Dieu, sa richesse, sa bonté, on se rend compte que souvent l'épreuve, la souffrance, c'est des grâces qui sont déguisées pour nous approcher de lui. N'endurcissons pas nos cœurs, mais laissons-nous être transformés par la repentance, car Dieu est bon. Il nous veut auprès de lui. Revenons à lui de tout notre cœur, et ce, à chaque jour. Prions. Seigneur Jésus, je veux te dire merci parce que tu t'es donné pour nous, Et Père éternel, merci parce que tu es compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Oui, Seigneur, on a tous péché contre toi. Ce que nous méritions, c'était ton jugement contre notre péché. Mais Seigneur, ce que tu nous donnes, c'est ta grâce, c'est tes compassions. Et Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce qu'un jour dans ma vie, tu me saisis. Merci parce qu'un jour dans ma vie, tu me fais réaliser que j'avais besoin de me repentir. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs. Peut-être certains ici n'en sont jamais venus à ce constat-là. Je te prie de parler à leur cœur par ton esprit, de les amener ce chemin qui est difficile, parce que de reconnaître nos torts, Seigneur, c'est vraiment pas une chose facile. Mais ô combien tes bontés sont grandes quand on va vers toi sur ce chemin-là. On rencontre ton cœur, Seigneur. Quand on ouvre notre cœur, quand on est honnête devant toi, tu nous révèles le tien. Et Seigneur, tu es grand, tu es riche en bonté. Je te prie de bénir mes frères et sœurs de l'Assemblée ici à Saint-Félicien. Que tu puisses les bénir abondamment. Que tu puisses, Seigneur, à chaque jour, renouveler un zèle dans leur cœur pour t'aimer, pour te servir. Et Seigneur, merci pour ta parole qui nous instruit, qui nous redresse à chaque jour et qui nous fait du bien, Seigneur. Amen.
Notre premier chant, c'était...